Philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 27 avril 1989.
Nous allons continuer, puisqu'il y a de la lumière aujourd'hui, ça va très bien. Un beau soleil. Aristote étant en Grèce, il y avait beaucoup de soleil. Les Grecs sont très sensibles à la lumière. Une sensibilité très particulière. Regardez toute la tragédie grecque sur l'être aveugle. Ça, c'est très net. Il y aurait à relever ça parce que ça fait partie, je crois, de tout ce contexte grec. On essaie de comprendre le dépassement des éléments, puisqu'on a essayé de comprendre le lien entre la nature et l'élément. Ce n'est pas par la nature que nous pouvons chercher ce dépassement. Oui, ça a peut-être été l'erreur d'Aristote, si j'ose dire. Comprendre que c'est par le problème des éléments que tu poses que nous pouvons découvrir comment les quatre éléments n'explique pas tout notre monde physique. Les quatre éléments sont sûrement des racines fondamentales de tout notre monde physique, et que ces racines ne sont pas tout. Et le dépassement des éléments se fait par le point de vue de la lumière. Évidemment, on pourrait rattacher la lumière au feu. C'est-à-dire que le feu est lumineux. Et que le feu, que la lumière est donc une propriété du feu. Parce que c'est vrai que le feu illumine la nuit. Et donc, amènerait le point de vue de la lumière au feu. Vous voyez, ça a été fait en philosophie grecque, Héraclite. Quand il met le feu comme ce qui dépasse tout notre monde physique. Et le feu est un élément de notre monde physique. Donc il ne dépasse pas notre monde physique. Alors je crois que la question se pose. Savoir si la lumière est une participation d'une réalité supérieure aux quatre éléments, ou si la lumière est propriété du feu. Je crois que c'est à peu près cette question-là qu'on se posait la dernière fois, quand on partait de la lumière comme quelque chose qui dépasse notre monde physique. Pour Aristote, c'est net, puisque c'est la lumière qui fait l'unité de notre monde physique. Donc si la lumière fait l'unité de notre monde physique, la lumière est au-delà du feu, puisque le feu est un des éléments. Donc un des éléments ne peut pas faire l'unité. Et que pour notre cher père Théard, la lumière fait aussi l'unité. Et pour saint Thomas aussi. Ça, c'est une question très difficile. Mais qu'il faut se poser. Parce que c'est en fonction de la réponse qu'on va donner à cette question qu'on va poser une quintessence ou pas de quintessence. J'espère que vous voyez bien le problème.
Par rapport au feu, en ce sens que le feu existe ou qu'il n'existe pas, on constate que le monde physique
existe au-delà. Oui. Donc, oui, mais faisons attention. Hein. Moi, je pars de mes sens. Toujours. Bon, je vois que c'est la terre. C'est le toucher qui me met en contact avec la terre. Chaud et froid. C'est le toucher. Bon. Ici, la lumière, c'est l'œil. Hein? Ah, c'est sûr. Les deux extrêmes de ma connaissance, le toucher et l'œil. Me fait découvrir les quatre éléments et me donne cette structure fondamentale et matérielle du monde physique, les quatre éléments. Que le feu que j'ai posé est un élément supérieur à tous les autres et que le feu a comme propriété aussi d'illuminer. Vous voyez, c'est un fait. Dans notre base physique, le soleil est feu et illumine. Si le soleil n'existait pas, est-ce que la lumière serait là? Et est-ce que le soleil est autre chose que le feu? Point de vue élémentaire. Vous voyez, moi je réponds à votre question. Oui.
D'autant plus qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui de la lumière artificielle, qui est une lumière qui ne réchauffe pas,
Oui, mais ça se fait artificiel. Oui, partez pas de l'artificiel pour connaître la nature.
Oui, mais ça nous montre d'autant plus que la lumière naturelle est une lumière qui réchauffe, donc qui est d'autant plus liée
au feu.
Au feu.
Oui, si vous voulez, mais c'est négatif ça. Oui, parce que vous prenez par la lumière artificielle. Oui. Je comprends, c'est un nota bene. Oui. Négativement, la lumière naturelle réchauffe la lumière artificielle. Ça chauffe aussi un peu. Pour moi, c'est la question.
Est-ce qu'un élément naturel peut avoir, je ne dis pas une propriété, mais quelque chose qui peut être porteur de quelque chose qui le dépasse comme élément? C'est-à-dire, est-ce que la lumière n'est qu'une propriété du feu, ou est-ce que c'est dans le feu que...
C'est-à-dire que la lumière que je vois, ma lumière physique, fait partie de notre univers. Oui. J'essaie de voir si on peut supprimer la quintessence. La nier. Si les quatre éléments suffisent à tout expliquer, radicalement. Puisque pour Aristote, vous voyez, donc, ce que je vous avais essayé de préciser la dernière fois, il y a méta. Métaphysique, c'est méta-élément, c'est le cinquième. Et le cinquième, pour lui, c'est la quintessence, dont la propriété est la lumière. C'est la quintessence qui fait l'unité de notre monde physique. Et cette unité est manifestée par la lumière. Alors vous voyez, ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que les quatre éléments, c'est le toucher, et ici c'est la vision. Notre monde physique est un monde qui est en connaturalité avec nos sens. C'est par nos sens que nous essayons de les comprendre. Et que la vision, c'est la lumière, les quatre éléments. Donc le toucher donne la structure de notre monde physique par les quatre éléments. Et la lumière dépasse. Chose unique dans la lumière qui fait l'unité. Et les quatre éléments donnent la structure, je crois, donnent l'organisation, si vous voulez, interne de notre monde physique. Donc l'immanence et la transcendance, en gros, la lumière transcende, c'est ça que vous voulez souligner. Elle transcende. Alors, je me pose la question par rapport à Aristote. Ça, c'est vu du côté vision, puis d'un point de vue du mouvement. Le mouvement circulaire. Circulaire exige de poser justement un corps, une nature différente que celle des quatre éléments. Donc un cinquième élément. Alors je me pose la question, parce qu'on doit se la poser. Est-ce que tout ce que la science moderne nous dit sur notre univers, cosmologie, l'astrologie, nous dit sur notre univers, doit supprimer cette quintessence, ou au contraire, doit simplement nous exiger de nous un regard plus profond, plus critique sur la quintessence, mais il existe quelque chose. Pas le problème. Je crois que ça, c'est... Je suis obligé de me poser le problème. Je n'ai pas le droit de dire la quintessence vieillirie. Ça ne signifie rien du tout. Non. Je me pose la question, puis-je encore, au plan philosophique, parler de la quintessence? Pour ne plus en parler, il faut donc tout ramener à l'élément feu. Ou est-ce que l'élément feu n'explique pas tout?
Est-ce qu'on peut comprendre la lumière dans notre expérience à partir de l'expérience du feu? C'est-à-dire constater que ce qu'on peut faire comme expérience, mettons en prenant deux éléments comme deux silex, voir apparaître le feu et voir que la lumière est en fait une relation entre deux éléments.
Ça veut dire que la lumière, vous se ramènerez au feu. Regardez, comme une propriété du feu. Alors que pour Aristote, elle est propriété de la quintessence.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai à partir de cette expérience, on constate que la lumière
jaillit,
mais de feu. Deux éléments.
Oui.
Donc, que la lumière, l'être de la lumière est en fait une relation entre deux éléments.
Ah non, pas une relation. Elle jaillit du feu. Vous voyez, le fruit de la conception présuppose deux, mais il est le fruit qui fait l'unité. Vous voyez,
ouais.
Donc la lumière est un fruit de deux éléments.
Oui, c'est ça, on peut faire le même raisonnement par rapport à la lumière du monde physique, oui. À partir de l'expérience,
oui.
Du feu.
Exactement. Oui. Et que le feu va impliquer. vit cette lumière? C'est ça que je me pose comme question. Vous voyez, si le feu, si la lumière peut être vraiment une propriété du feu, je n'ai plus besoin de la quintessence. Si simplement c'est le feu est présent dans la terre, le feu est présent dehors, le soleil. Parce que pour moi, ma lumière, elle provient du soleil. Tous les jours, je m'en aperçois, le lever de soleil. L'aurore qui annonce quand le soleil apparaît, c'est la grande lumière. Et quand le soleil s'éteint, il dégringole, il y a un crépuscule. Et il y a une autre lumière qui le remplace, la lumière de la nuit, qui est la lumière de la lune ou des étoiles. Donc j'ai pas besoin de poser la quintessence. C'est tout simplement le feu. La terre, c'est un feu qui est mort, mais qui reste tout le temps là. La preuve, c'est qu'il y a un feu à l'intérieur de la terre. Et que de deux silex jaillit le feu.
Le feu devient condition sine qua non de la lumière, dans ce cas-là.
Ah, plus, cause. C'est pour ça que je dis propriété. La lumière est une propriété du feu.
En même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand le feu a produit la lumière, cette lumière ne lui appartient plus? Elle a comme une certaine autonomie, la lumière.
Est-ce qu'il est de vous mettez la lumière est une substance?
Non,
c'est
mais
un fruit. Mais la comparaison que je fais tout à l'heure, il y a la naissance de la lumière. Et la naissance de la lumière serait justement un fruit qui aurait son autonomie. Donc, il serait une nature. Elle ne manque la quintessence.
Mais un élément ne peut pas être cause.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un élément ne peut pas être cause.
Pourquoi pas? L'élément, c'est une nature. L'élément est une nature. C'est là où la nature existe en premier lieu. La terre, l'eau. Considérer l'élément comme n'étant pas une cause.
C'est une causalité, mais du côté de la causalité matérielle de l'élément.
Ah, et le feu.
Oui, justement, donc, est-ce que le feu n'est qu'élément?
La nature est une causalité efficiente en premier lieu, qui se distingue matière et forme. Il y a une causalité efficiente de la nature. Et les éléments ont une causalité efficiente. Une douche. C'est l'eau. L'air, causalité efficiente, transporte l'oxygène qui me permet de vivre. Condition sine qua non pour la vie, mais causalité efficiente pour le monde physique. Et le feu, la lumière. C'est ça que je me pose comme question, vous voyez. Ce qui me permettrait de tout ramener aux quatre éléments. Et dire qu'Aristote a été trop grec, la lumière l'a tellement séduit que il faut une connaissance. Alors que de fait, on voit bien que le soleil, que la lune ne possède pas chimiquement d'autres réalités que les quatre éléments. Dans le soleil, le feu domine, alors que dans notre terre, c'est la matière et la terre qui domine. C'est l'élément terre. Et le feu est présent. Le feu est présent dans la terre. Le feu est présent dans le roc. Le roc, on l'escoue, elle émerge. Donc le feu est présent. Ce qui est normal, puisque les quatre éléments sont tout le temps en mouvement. Et étant en mouvement, ben, de temps en temps, c'est le feu qui domine. Quatre éléments suffisent à tout expliquer. Et quand le feu domine, c'est la lumière. Et quand c'est la terre qui domine, ben c'est l'obscurité. L'obscurité de la terre. femme causer avec un dessin.
Est-ce qu'on peut avoir la lumière comme le résultat des quatre éléments, en ce sens que tout corps possède une énergie propre, je veux dire, non, et cette énergie-là serait considérée comme la lumière. Mais par exemple, quand je pense à la fission d'atomes, c'est une certaine énergie. Et c'est lumière, du fait.
La lumière est quand même une propriété qui se rattache au feu plus qu'à la terre. C'est pour ça que je dis, ces quatre éléments. Je crois qu'on peut maintenir les quatre éléments. Les quatre éléments représentent une analyse philosophique fondamentale de notre monde physique. Et tout ce que la science moderne dit sur la chimie, c'est un peu extraordinaire. C'est intéressant. Mais ça ne change pas les quatre éléments. Alors la question que je me pose, c'est de savoir si les quatre éléments suffisent à tout notre monde physique, à expliquer notre monde physique. Ou si au contraire, je dois poser un cinquième élément. Oui. Si au contraire, la science moderne a évacué pour de bon ce cinquième élément. Ça qui m'intéresse au plan structurel.
Oui. Comment est-ce que philosophiquement on peut expliquer l'unité du monde physique, justement, uniquement à partir des quatre éléments?
C'est ça qui pose la question plus difficile. Mais ça, c'est une conclusion. L'unité, je ne la vois pas. Ou plus exactement, je la vois, si vous voulez, par la lumière. Mais je peux la voir momentanément. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez plus l'unité.
Mais l'unité de la Terre.
Quoi?
L'unité de la Terre. Et l'unité de la planète.
L'unité de la planète, mais qu'est-ce que c'est sous l'autre? L'unité momentanée. C'est pas une unité qui relève d'un corps particulier. Les anciens disaient ça parce qu'ils considéraient que le soleil était incorruptible. Je dis pas que la Terre est incorruptible. La Terre représente une unité momentanée. Qui peut très bien se... Une unité qui tout le temps se fait, se refait, se fait avec un certain équilibre. Mais il suffirait très peu de choses pour que cet équilibre n'existe plus. Et que je sois en face d'une terre. Pour moi, la terre n'est pas éternelle. Et donc, c'est l'unité, l'harmonie des quatre éléments.
Il y a un ordre dans ces quatre éléments.
Oui, il y a un ordre.
Feu, un mouvement qui est beaucoup plus déterminé que les autres.
Mais c'est possible que le feu est l'élément supérieur, oui, ça c'est sûr.
Oui.
Que le feu donne une harmonie à tout le reste, mais que c'est une harmonie immanente.
Oui, enfin, en tant que fruit, j'allais dire de l'union des quatre éléments, impliquant le feu, oui, dans ce qu'il a d'excellent. Donc ce fruit serait du côté vraiment de l'acte. Qui est comme un fruit.
Le fruit, c'est la lumière.
Oui.
Mais, je dis propriété. Acte manifeste.
C'est la lumière. Donc par là, la lumière.
Donc, feu et lumière se tiennent d'une façon essentielle. Alors, est-ce que le feu se ramène à la lumière? D'autres façons de poser, c'est les relations philosophie de la nature reste boiteuse. Parce que je vois pas l'unité. L'unité. L'unité est propriété de l'être. Donc, si l'unité est propriété de l'être, l'unité ne me fait pas poser une nouvelle nature. Métaphysiquement, c'est net. Puisque l'un est propriété de l'être. L'un s'attache au monde physique, au devenir aussi. Le devenir a une unité dans la continuité et n'a pas d'unité au sens absolu. Il n'y a qu'une continuité. C'est pour ça que notre monde physique n'a pas d'unité au sens absolu, puisque son être est dans le devenir. Donc il a une continuité. Aristote mettait une unité dans notre univers parce qu'il le considérait comme éternel. Mais nous ne considérons pas que notre monde physique est éternel. Ça, c'est une projection de l'être sur le devenir. Donc notre univers n'est pas éternel. Il n'a qu'une continuité, une harmonie qui, à un moment donné, peut se dissoudre.
Peut expliquer ce par quoi le feu existe dans le soleil aujourd'hui.
Elle n'explique pas, elle donne des propriétés.
Elle peut décrire certains éléments qu'on retrouve dans le soleil,
oui,
et qui, constatés ensemble,
oui,
font apparaître le feu.
Oui, des relations.
Des relations.
Des relations.
Donc, le feu lui-même ne serait qu'une relation entre des éléments.
C'est ça.
Oui, mais
donc,
attention.
C'est pas vrai. Une relation entre des éléments.
C'est une relation.
Une relation de corps existant impliquant le feu.
Oui.
Et qui manifeste.
Impliquant le feu, et que le feu.
Le feu
se manifeste à ce moment-là.
Comme une manifestation.
Comme je vous dis, les deux silex, quoi. L'expérience très simple des deux silex. C'est que le feu est présent dans la terre. Si le feu n'était pas présent dans la terre, vous ne pourriez pas expliquer que deux silex jaillit le feu.
Oui. Le feu ne peut pas exister par lui-même.
Ah, mais le feu existe comme un élément.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est
une... Au plan philosophique.
Mais non, il a une nature.
Voilà, il a une nature.
C'est pas le feu que tu vois.
Il a une nature, le feu. Il est un élément.
On peut dire que la lumière...
Quoi ?
Que la lumière a une propriété d'actuer tout le monde physique. Mais c'est une actuation immanente qui, en fait...
C'est une actuation immanente.
Provenant de la nature ultime du feu. Donc,
moi, je crois.
Il y a comme une...
comme une manifestation. Oui. Et alors, peut-être, quand je dis propriété, il faut bien comprendre ce que c'est que la propriété au niveau de la nature et au niveau physique. C'est pas une propriété comme, on dira au plan logique. C'est la manifestation de la nature même de la chose. La propriété est inséparable de la nature. Et donc manifeste ce que c'est que cette nature. Et je me demande si la lumière n'est pas ça par rapport au feu.
Elle n'était pas là. C'est-à-dire la quintessence du feu. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais... C'est la quintessence du feu.
Oui.
Mais c'est la propriété.
Tout à fait ultime.
La manifestation, l'actuation. Oui. Ce par quoi le feu entre en relation avec tous les autres. Et donc qui fait l'unité de tous les éléments. Et l'unité de notre monde physique. Unité, autant qu'on peut parler d'unité. C'est pour ça que la lumière n'exige pas de poser une quintessence. Ben, c'est comme ça que je le dirais, mais c'est pour ça que c'est intéressant de chercher ça. Parce que ça n'a pas été cherché. On parle de la lumière au plan physique, au plan du physique, mais ça ne sert à rien du tout. C'est la mesure. On mesure les, quelque chose qui est lié à la lumière. La lumière physique est toujours matériel, parce que le feu est toujours lié à la matière et à la terre même. Donc ce qu'on mesure dans le mouvement de la lumière n'est pas la lumière. Mais quand on mesure le mouvement de la lumière, c'est pas la lumière, c'est le conditionnement de la lumière. Mais c'est pas la lumière. La lumière comme telle est indivisible. Donc elle ne se mesure pas. Elle ne peut pas se mesurer. Puisque la lumière actue la vision. Et comme elle actue la vision, elle actue la connaissance sensible, la plus parfaite.
Par exemple, quand je parle en théologie, quand on dit que Dieu est lumière,
c'est des choses. Amen. Moi, ici, je parle de. C'est la grandeur, c'est l'importance de la philosophie de la nature. C'est que j'ai expérience de ça. Vous n'avez pas expérience de Dieu lumière. Vous dites analogiquement. Vous avez expérience d'une autre manifestation qui est spirituelle, intelligence. Et vous dites à cause de la manifestation que l'intelligence est lumière. Alors c'est de savoir si c'est une analogie métaphorique ou pas métaphorique. Moi je crois que c'est l'analogie, vous voyez, qui reste sensible, la plus parfaite. Métaphorique, faisons attention. Parce que c'est peut-être par là que je peux comprendre le passage du sensible au spirituel. Par le point de vue de la lumière. La lumière est le reflet dans notre monde physique de tout ce que représente le spirituel. Je crois. Mais elle demeure propriété, acte ultime de la lutte du feu.
D'ailleurs, on dit souvent dans notre langage, quand on a compris quelque chose, ah oui, je vois. Ce que tu dis est lumineux, et donc c'est déjà le signe explicite.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est lumineux.
On peut faire ce passage de santé.
Mais je crois que la lumière physique est notre premier analogue de la lumière. Mais ses propriétés, tu veux. Donc, c'est par la lumière que je connais le feu. Par la propriété. Mais je ne connais parfaitement la lumière que quand je connais le feu. Que propriété. J'ai une connaissance philosophique de la lumière par le feu. Oui, ça remet très très en lumière Héraclite.
Est-ce qu'on aurait des exemples dans le monde physique, justement, de la lumière qui actue le feu?
La lumière qui
actue le feu.
Oui. La lumière manifeste, donc actue pour moi.
Mais est-ce qu'on trouverait des exemples dans mon physique de ce...
L'exemple très simple qu'on disait tout à l'heure, le point de vue du... Quand il n'y a pas de... L'exemple de la nuit, puisque pendant la journée, la lumière physique du soleil fait que tout le reste disparaît, comme lumière. Tu vois, devient second, devient relatif. La lumière du soleil est tellement puissante, tellement forte, que tout le reste est second. Mais déjà dans le feu est toujours lumineux. Vous n'avez jamais vu un feu non lumineux?
Non, mais bien sûr, mais de l'actuation de la lumière sur le feu.
Actuation de la lumière, faisons attention. Pour moi.
Oui.
Parce que le feu est lumineux, c'est pour ça que vous le voyez. Une torche. Elle est lumineuse quand elle brûle. Comment? Elle est très terrestre.
Le feu est plus que lumière.
Quoi?
Le feu est plus que lumière. D'une certaine façon.
Le feu est source de lumière.
Il est plus que la lumière.
Oui, plus que la lumière. Il est source de lumière.
Avec la lumière des étoiles ou de la lune, le lien entre le feu et la lumière est beaucoup plus ténu.
Il est plus ténu parce que, de fait, leur chaleur est beaucoup plus ténue aussi.
Ah oui. Donc, Aristote, est-ce qu'il ne regardait pas plus la lumière des étoiles que celle du soleil?
Oh non, c'est le soleil. Le soleil a un rôle capital pour lui.
Alors, comment se fait-il que...
Puisque l'homme engendre l'homme avec le soleil.
Qu'il est rattaché alors à la lumière, à la quintessence plutôt qu'au feu. quatre éléments, c'est la structure qui explique le monde corruptible.
Oui. Tout le monde corruptible est expliqué par les quatre éléments.
Alors, est-ce qu'au fond, la raison propre de la quintessence, c'est le mouvement circulaire?
Oui, carrément. Au-dessus. Oui, c'est par le mouvement. C'est par le mouvement.
C'est pour expliquer...
Le toucher me donne le sens.
Si Aristote arrête son analyse de la philosophie de la nature à la vision et pose sa quintessence,
oui.
Il la pose. Est-ce qu'on peut dire qu'il la pose au terme d'une induction?
Ah oui, d'une induction.
Mais pas de même type que les autres, parce qu'il n'y a que l'expérience de la vision qui lui fait poser la quintessence.
C'est une sorte de démonstration a posteriori, analogue à celle de Dieu. Attendez, vous voyez, vous c'est là le problème, bien, vous avez raison là.
Cours de philosophie de la matière par le père Philippe Rimond, le 1er mai 1989.
Vous avez des questions?
À la lumière.
À la lumière de la lumière.
Est-ce que c'est la lumière? N'est pas comme un état dernier dans le monde physique, de transformation comme ultime. Et il n'y a pas comme un appel vers cette transfiguration comme ultime du monde physique. Sinon, sa puissance radicale, il était incompréhensible, cette indétermination radicale. Est-ce que la matière n'a pas cet appel vers cette détermination ultime, parfaite?
Sûrement qu'il y a les deux extrêmes. La matière, j'allais dire la matière première, pure puissance. L'acte, être en acte pour le monde physique, c'est la lumière. C'est ça que vous voulez dire, hein? Être en acte pour notre monde physique, c'est la lumière, je crois. Vous voyez, alors, puisque la métaphysique est présente à notre philosophie de la nature, à la philosophie de la matière. Elle est présente. Oui. Et par le fait même, elle doit donner un sens à cette philosophie de ce qui est vu. Pour montrer son fondement substantiel, qui est la matière première. Fondement substantiel, radical. Cette matière première, dans son acte ultime, l'être en acte, c'est ce qui est ultime, et l'être en acte, c'est au niveau philosophie première, au niveau de ce qui est mu, c'est la lumière. Je crois.
Est-ce que la quatessence, comme une possibilité, comme un appel,
Oui. Ce qui me gêne dans la quatessence, c'est que, et c'est ça qui est la question qu'on va se poser, la quatessence est vue comme un élément. Oui. Alors, est-ce vraiment un élément? Ou est-ce que ça exprime quelque chose qui, au fond, autrement dit, pour expliquer ces deux extrêmes, lumière et matière première. L'analogue au niveau philosophie de la nature de l'être en acte et l'être en puissance. L'être en acte et l'être en puissance expriment une réalité fondamentale qui est la substance. Je ne pose pas une nouvelle substance qui est l'être en acte. Vous voyez ? Alors, n'y a-t-il pas quelque chose d'analogue ici? C'est la question qu'on pose. Du côté fondement, matière, vous avez l'analyse des quatre éléments. Vous avez le feu. Or, le feu est lié à la lumière. Ça ne peut pas dire. Et le feu explique le dynamisme foncier des quatre éléments qui donnent la structure du monde physique, c'est-à-dire de ce qui est mu. Ce qui est mu fondamentalement se ramène aux quatre éléments. Et le feu, c'est ce qu'il y a d'actuel dans les quatre éléments, de plus actuel. Ça implique une matière, c'est évident. C'est un élément. Vu du côté de l'analyse, parce qu'il s'agit d'analyser, n'y a-t-il pas dans le feu justement cet aspect l'aspect ultime, qui se traduit non plus par un élément, mais qui se traduit par une propriété. La propriété du feu dans la lumière. Et dans le monde physique, nature et propriété sont liées, sans poser un nouvel être distinct. La nature du feu a comme propriété d'être la lumière. Et la lumière exprime par rapport aux quatre éléments ce qui est ultime.
Est-ce qu'on peut, comme, par rapport à la première immobile, faire une démonstration analogique
de... Sans attention, le premier être immobile, c'est plus l'ordre de la structure. C'est plus l'être, ce qui est mu. C'est l'être immobile. Donc c'est un autre là.
Et par rapport à l'incorruptible, est-ce qu'on peut trouver...
Le feu est corruptible. Puisque le feu explique le mouvement.
Parce que la lumière, il n'y a plus de changement en là. Il y a comme...
Ah oui, mais la lumière est dans la corruptibilité. C'est une propriété du feu. Et la lumière est corruptible comme le monde physique. C'est pour ça qu'il y a la lumière et les ténèbres. C'est comme elle l'est. Hein. Notre monde physique n'est pas toujours le même. Vous avez quand même lumière et ténèbres. Ça, on ne peut pas le nier. Selon des proportions différentes, quand vous avez un avion de l'Amérique en Europe, vous voyez le coucher de soleil, et très peu de temps après, vous voyez le lever.
Parce que cette indétermination demeure, mais est-ce qu'on peut poser une matière où elle est parfaitement définie?
Pourquoi poser une matière incorruptible? Je n'ai aucun élément d'incorruptibilité dans mon monde physique. Aucun. C'est l'âme immortelle. C'est l'esprit. Et tout ce que j'ai comme expérience me donne la corruptibilité, me donne le mouvement. Oui.
Mais est-ce que cette recherche de la connaissance...
C'est ça que je pose la question. La science moderne a quand même apporté quelque chose dans l'analyse du mouvement et de la corruptibilité. Les expériences que j'ai des astres, du monde futur, du monde, ce que les anciens appelaient le monde céleste, ne me donnent pas du tout l'expérience de la corruptibilité. C'est une expérience du mouvement et de la corruptibilité. Ça se fait à une échelle astronomique, mais ça se fait quand même dans une échelle astronomique. Notre monde, selon l'expérience physique, ne tend pas du tout à être un monde incorruptible, au contraire. Je dois tenir compte de ça. Je n'ai pas le droit de nier cette expérience-là. Ça ne me gêne pas du tout du reste. Moi, je suis parti des quatre éléments. Le toucher, le feu échappe déjà au toucher, parce qu'au fond, je n'ai pas vraiment de toucher du feu. Chaque fois que vous touchez le feu, bon, tout de suite. Or, le toucher demande du temps. Et le feu m'empêche de toucher longuement, parce que je ne sens plus rien. C'est la vue. Vous voyez, le feu, c'est la vision. Ça, c'est très net. La vision, il y a le toucher. Le toucher, c'est le point de vue de la matière, c'est la terre. La terre demande d'être touchée et la lumière demande d'être vue. Que vous ayez ces deux extrêmes dans notre monde physique, ceux qui demandent d'être vus et qui échappent au toucher, sans échapper complètement. Parce que quand même, j'ai l'expérience du feu. j'ai l'expérience du feu qui me fait que je m'écarte le plus vite possible. N'est-ce pas? Même liturgiquement, le feu nouveau. On s'approche, et... C'est extraordinaire de regarder ça. Parce que ça donne l'expérience du toucher, et ça donne l'expérience de la séduction du feu. Ou d'allumer le siège pascal, hein. Ça donne des petites expériences qui sont étonnantes. Alors c'est bien ce point du toucher de la vision. C'est même très curieux. Et ça, c'est la lumière. La vision, c'est la lumière. C'est l'horizon du monde physique. Dans la vision. Et le monde physique, j'allais dire, son unité, c'est l'horizon. Et quand les modernes parlent de l'horizon, qui joue un tel rôle dans le point de vue moderne, l'horizon. Parce que l'horizon, ce n'est pas ce point de vue de l'unité. Vous voyez, l'unité du monde physique, il est limité à mes sens. Ben, c'est sûr. J'ai toujours le contact avec les sens, avec le monde physique. Parce que ce qui est mu reste sensible, visible. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, et ce serait beaucoup plus beau du reste, j'allais dire, c'est un éclatement de tous ces corps incorruptibles. Tout est dans la corruptibilité. Mais tout est vu dans les deux extrêmes, la terre et le feu. Alors, ça donne au feu une dimension nouvelle. Vous voyez, par le point de vue de la lumière, qui est la propriété.
Est-ce qu'on peut dire que Louis exprime dans, comme troisième sens, le dynamisme foncier du feu? Quel est le rôle de Louis par rapport à la vue et au toucher dans la saisie du feu comme...
Il y a Louis.
Parce que Louis donne un certain sens de dynamisme.
Louis est très lié au mouvement, ce qui mouve. Et vous voyez, c'est un sens intermédiaire, Louis. Ce n'est pas les sens extrêmes. Les deux sens extrêmes, c'est le toucher. Et la vue. Et ce sont, parce que, évidemment, vous pourriez dire quatre éléments qui sont liés aux quatre sens. Hein? Bien sûr.
Aux trois sens. Quel est le quatrième?
Quatre éléments.
Ah oui. Mais les quatre sens, il y a la vue, le toucher, oui.
Et le goût, l'odorant.
Bah, à part les avaleurs de feu, je vois pas quelle expérience du feu on peut
elle
avoir.
Elle
souffre. Oui, c'est pas...
Il y a sûrement un lien. Ça ne peut pas être autrement. Parce que vous ne l'avez pas découvert. On cherche. Vous voyez ? Ce n'est pas ce que j'ai découvert qui est la réalité. Je cherche. Je dis qu'il y a un lien. Alors est-ce que les cinq, c'est la projection de la vision ? Non, parce que la vision reste liée. Le toucher et le goût. Le goût, c'est l'intériorité du toucher. Et l'odorat, c'est le sens d'une finalité. Et l'ouïe, c'est le sens du mouvement. Vous voyez ? Or, dans le monde physique, la finalité est saisie à l'intérieur. Le feu qui finalise, c'est la lumière, ce que disait. Je crois que la lumière finalise. Elle fait l'unité, elle finalise. Elle fait l'unité, l'horizon. Ce au-delà de quoi je ne peux pas voir. L'horizon, c'est ça. Ce au-delà de quoi je ne peux pas voir. Donc ça donne le sens du foulecon, mais un foulecon organisé, qui enveloppe, l'enveloppant. Parce que c'est l'enveloppant. Il faut chercher. Mais je crois que c'est important de comprendre, c'est là la question posée, devons-nous continuer d'admettre la quintessence ou non ? Où tout s'explique par les quatre éléments. c'est important, ça, parce que c'est toute la structure de la philosophie de la nature. Elle est très différente, vous voyez. Si je prends comme première division de ce qui est corruptible, incorruptible, est-ce que je peux regarder ça? Pour Aristote, c'est fondamental. C'est la première grande contrariété. La première division. Il y a les quatre qui structurent et le cinquième qui structure. Donc là, du côté de la structure, je ramène tout aux quatre. Et je vois que corruptible et incorruptible n'est pas la première division du monde physique. C'était très joli, remarquez. C'était très harmonieux. Les choses d'Aristote, c'était très parfait. Mais est-ce qu'on n'a pas justement une vision plus nette du monde physique qui est essentiellement imparfait? Et moi, ça rejoindrait très fort cette vision de sagesse que Dieu n'a pas réalisé un monde parfait. Il l'a réalisé essentiellement imparfait. Pour laisser la place à l'homme. Alors ça rejoint la vision de Dante, n'est-ce pas ? L'œuvre d'art, petite fille de Dieu. Et ça, c'est très important, de voir que Dieu, dans sa magnanimité, a eu cette espèce de politesse à l'égard de son chef-d'œuvre, de lui laisser le soin d'achever notre monde. Alors, est-ce que l'homme, à la place de l'achever, n'est-il pas en train de le détruire ? Oui ?
Est-ce que l'homme n'est pas lui-même l'imperfection ?
Quoi ?
Est-ce que l'homme n'est pas l'imperfection ?
Mais non, parce qu'il est imparfait à cause de son corps. Votre corps est corruptible. C'est pour ça qu'il y a des médecins. Il n'y a plus besoin de médecins.
Au sens divin.
Si mon corps était parfait, je vous affirme, j'aurais plus besoin de médecin. J'aurais plus besoin de chirurgien. J'aurais plus besoin. Mon corps est dépendant du monde physique.
Mais c'est quand même l'imperfection du monde physique.
Quoi ?
L'homme est quand même l'imperfection du monde
physique. Il n'est pas la perfection. Il est le plus parfait.
Ou le moins parfait.
Pardon. Il n'y a pas de perfection dans le monde physique. Voilà ce qu'on aboutit. Hein. Je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais je suis dans cette recherche-là. Et j'avoue que c'est, pour moi, profondément, ça me va beaucoup mieux. De voir que le monde physique, c'est une tente. Comme disait le monde de la première alliance. On est en face d'une tente. On attend. Notre monde physique est une attente. Une grande attente. Il gémit. Si c'était parfait, il ne gémirait pas. Il n'y aurait pas le cri de l'enfant. On est un petit enfant dans le monde physique. Et on crie. Si on est perdu là-dedans. Derrière cette corruptibilité. Par toujours une corruptibilité. Et l'homme essaie. De construire des choses incorruptibles. Il essaie de construire des produits incorruptibles. Vous voyez, l'homme devait perfectionner notre monde pour permettre le point de vue de l'aliment, le point de vue de la beauté. C'est-à-dire que la création est une œuvre de bonté, pas de beauté. Et Dieu laisse à l'homme le point de vue de la beauté. Par le point de vue de la forme. Mais notre monde demeure corruptible. Et par la matière, les œuvres artistiques demeurent corruptibles. Et nous assistons à cette corruptibilité que l'homme va accélérer. Par le monde pollué, on accélère la corruptibilité. Et on s'en aperçoit. Tout ce qui jusque-là n'avait pas bougé, comment ça bougeait ? À Athènes, à Nazareth. crotte de l'annonciation qui tombe, qui est fritée, à cause de la corruptibilité dans laquelle on a accéléré ça. Et c'est extraordinaire de voir ça. Alors qu'on aurait dû permettre, acceptant la corruptibilité, on aurait dû permettre à notre monde d'être plus proche de l'homme, plus au service de l'homme, pour permettre de glorifier. Il me semble, je vous donne des pistes de recherche. C'est ce que doit faire le philosophe du monde, de la philosophie de la nature. Oui.
Quel était le statut de l'univers dans la justice originelle? On n'en sait rien.
Dans le statut de la justice originelle, l'homme, dans son corps, était fait pour l'immortalité. Le péché, l'orgueil, a augmenté la corruptibilité. Ce qu'il a atteint jusqu'au corps de l'homme. Vous voyez, en justice originelle, ce que vous disiez, notre corps est parfait, j'accepterai. Mais c'est pas parce qu'il est un corps, c'est par la grâce de Dieu.
Est-ce qu'on peut dire que la création en elle-même implique quelque chose de radicalement imparfait?
Non. Il faut la grâce. Okay. C'est pour ça qu'il y avait la justice originelle, pour achever ce chef-d'œuvre de Dieu. Il est chef-d'œuvre de Dieu par la grâce, mais pas en tant que créature.
Et l'univers aussi?
Qui?
L'univers aussi?
Je crois que l'univers est ordonné à l'homme. Si l'homme est parfait, l'univers est parfait.
Le théâtre.
Ah oui, Théâtre, c'est autre vision. Oui, je crois que Théâtre, il y a une idéologie qui veut que notre monde soit parfait par le point de vue, voyez, de l'évolution. L'évolution, c'est quand même une projection sur l'univers de nos nostalgies de perfection. Je crois. C'est un manque de réalisme de l'imperfection radicale de notre monde.
Est-ce qu'on peut dire que Théard, justement, a eu cette vision d'une matière incorruptible, il en a fait une conjonction avec le Christ Oméga, mais c'est un peu cette, oui, cette volonté de...
C'est la quintessence.
Oui, c'est la quintessence.
Théard de Chardin, la reprise de la quintessence aristotélicienne.
Et c'est par le feu, hein, c'est toujours par le feu qui montre la matière.
Le feu et la lumière. La lumière joue un rôle aussi très important.
Mais même avant l'homme, est-ce que la vie ne renouvelle pas l'univers? Et la vie n'est pas extérieure à l'univers, à lui. Est-ce qu'elle ne lui donne pas un certain achèvement?
Non. Il y a l'achèvement. Et il y a des choses corruptibles.
L'espèce?
Par l'espèce.
Quoi?
Il y a quand même une certaine... Il n'y a pas une incorruption parfaite.
L'espèce n'implique pas d'incorruptibilité.
Il y a quand même un certain renouvellement.
Il y a des animaux qui ont disparu quand même.
C'est une continuité.
Quoi?
Il y a quand même une continuité.
Une perfection nouvelle.
Une perfection nouvelle.
Qui est dans la perfection. L'acte de ce qui est en puissance. Et ce qui est en puissance demeure. Et ce qui est en puissance est source de corruptibilité. La vie biologique n'est pas parfaite. Elle demande tout le temps d'être reprise. La corruption, la mort. Mais que la vie apporte une perfection à notre monde physique, c'est bien évident. Mais pas une perfection absolue. La vie n'est pas victorieuse du monde physique. Non. Elle n'est pas victorieuse.
Pas complètement, mais...
Donc elle n'est pas victorieuse, c'est complètement. Tout ce qui est incomplet n'est pas parfait. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Ce qui manque, oh, ce qui manque rien. C'est ça la perfection.
Et l'esprit, l'esprit, mais il est extérieur au monde physique, c'est-à-dire pour la...
Si je parle du monde physique, ouais, au point de vue philosophique, et vous voyez, même la vie est quelque chose qui vient s'ajouter au monde physique.
Pour Aristote, la vie était quand même assez...
Elle est liée au monde physique.
Oui.
Et la vie, pour moi, n'a de sens qu'avec l'esprit. Ouais. Il n'y a pas de philosophie de la vie en dehors de l'esprit. Oui. Le monde biologique est ordonné au monde de l'esprit. Philosophiquement parlant.
fait, on pourrait dire quand même que quasiment toute création implique une imperfection.
Toute création implique une limite. L'être créé est participé, donc il est limité. S'il est limité, il ne peut pas atteindre par lui-même la perfection absolue.
Donc, on peut dire tout de suite...
Ah oui, mais ça, c'est une grande sagesse.
Ah oui,
tombez pas dessus, hein, faites attention. Jugement de sagesse qui vient dire, qui vient justifier cette imperfection radicale. Beaucoup plus difficile de justifier dans un jugement de sagesse la position aristotélicienne. Mais on peut. J'aurais pu faire ça.
Mais cette vision de sagesse vient montrer que la recherche d'une incorruptibilité
dans le corruptible
dans le corruptible
est possible, mais ce n'est pas nécessaire.
Oui, je veux dire, elle n'atteint jamais vraiment.
Non. L'incorruptibilité ne peut jamais être une victoire parfaite sur l'incorruptibilité.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la quintessence, en fait, c'est un petit peu comme...
une nostalgie.
Ou un reflet, quelque chose qui y transparaît de...
C'est
de la, d'un moi. Être qui est immobile, justement. Donc,
c'est pas la lumière.
Oui. Donc on voit quelque chose comme un reflet de un appel d'un être en acte, d'un être qui est immobile.
Mais vous voyez, l'être en acte n'exige pas nécessairement une substance plus réelle.
C'est l'hypostasie, l'acte du monde physique.
Ce que serait vouloir retrouver dans l'être en acte une substance nouvelle. Et c'est au fond derrière tout ça, même pour Aristote, il y a quand même, et c'est normal pour Aristote, c'est déjà énorme ce qu'il a dit, il n'a pas été jusqu'au bout, c'est voir retrouver dans l'être en acte, l'être en substance. Or, il y a irréductibilité dans mon intelligence entre le point de vue de la recherche de la fin et de la forme. Je ne pourrais jamais les rejoindre. Je peux les rejoindre qu'en Dieu. Mais dès qu'il y a créature, non. Mais et ça, je crois que c'est très important. C'est la même chose au point de vue de l'intellect agent. L'intellect n'est pas une substance. Et Aristote aurait presque voulu. C'est pour ça qu'il n'a pas terminé l'anima. L'intellect agent, et puis ses successeurs, en ont fait une substance séparée. Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la quintessence peut s'expliquer par une projection, une volonté de faire de l'esprit une partie de l'univers.
C'est pas une volonté de l'esprit.
Mais une volonté du philosophe de faire de l'esprit une partie de l'univers.
Non, je ne crois pas.
L'esprit,
je ne crois pas que la quintessence soit liée à l'esprit. C'est justement montrer une perfection dans l'univers. Une perfection qui n'est plus physique et qui est projection de l'esprit sur le monde physique. C'est plutôt ça. Trouver une immobilité dans le monde physique. La lumière. C'est pour ça que la lumière était vue comme quelque chose qui est au-dessus du mouvement. Instanti. Le mouvement de la lumière est instanti, c'est-à-dire n'est plus mouvement physique.
Ça vient de l'immanence de la vision, parce que la vision...
C'est une projection de la vision.
Donc c'est l'esprit qui est le plus proche du monde physique, c'est pas la lumière.
C'est un ontologisme, vous voyez, un ontologisme. La vision est dans l'ordre de l'intentionnalité, et la lumière est dans l'ordre physique. Et alors, il y a un petit blocage des deux. passe de l'intentionnalité au monde physique. Oui.
Certains ont voulu faire de l'esprit un principe propre de la personne. Est-ce qu'il y aurait aussi une tendance de faire de la lumière un principe propre?
Comme Descartes fait les substances pensantes, Aristote fait une nature lumineuse. Une nature lumineuse, c'est la quintessence. Or, la lumière est propriété. Elle n'est pas nature. L'esprit est propriété. Elle n'est pas nature. Elle n'est pas substance. Vous voyez, on aurait ça. Prenez cette analogie. Je crois que ça nous aide à comprendre. Et l'intellect agent. Et la lumière. C'est curieux parce que c'est une très belle analogie. Alors, la lumière, nature. Cinquième élément. Il faut que la lumière ait son substrat ontologique, qui soit lumineux. Et il faut que l'intellect agent ait son substrat substantiel séparé. Alors Aristote n'a pas dit, hein, mais Descartes le dit. Donc les substances pensantes. Lumière, cinquième élément. Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas faire l'analogie aussi avec la beauté?
Pas chez Aristote. Ce sera le néoplatonicien. Il y a sûrement quelque chose pour la beauté. Parce que la lumière est liée à la beauté. Mais la beauté, c'est le triomphe de la forme sur la matière. Et il est évident que la lumière, c'est le triomphe de la forme sur la matière. Pour le point de vue du feu.
Comme disposition vers la fin. Mais ça...
Oui. Parce que ça touche le point de vue de la fin. Aristote n'a pas, vous voyez, n'a pas posé la connaissance à cause de la beauté. Il a posé la connaissance à cause de la lumière et du mouvement parfait. C'est la nostalgie du mouvement parfait, le mouvement circulaire.
Mais le mouvement, hein? Le mouvement circulaire, le mouvement, les mouvements des quatre éléments, on ne peut pas rendre compte. C'est une composition parfaite.
Oui, ça peut suffire dans une synthèse. À la place d'être, vous voyez, quelque chose d'irréductible aux autres, c'est une synthèse intérieure. C'est pour ça que c'est du côté de la propriété. Si vous regardez bien le point de vue de la propriété, ça suffit à tout expliquer. La lumière est propriété du feu. Et si la lumière est propriété du feu, elle n'exige pas de poser. Et la propriété suffit pour expliquer l'être en acte. L'être en acte n'est pas nécessairement substance. L'être en acte est bien quelque chose qui existe dans la réalité comme propriété. Et comme un appel, je suis tout à fait d'accord, la lumière est comme un appel à l'esprit. La lumière, c'est le cri de l'intellect agent dans notre monde physique. Au plan philosophique, au plan divin, je dirais que c'est des gémissements d'Esprit Saint. Mais au plan philosophique, je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire que la lumière est comme un appel à un dépassement. Et l'intellect agent, c'est toujours l'appel à un dépassement. Je ne peux pas rester dans l'image. C'est monstrueux de rester dans l'image. C'est un appel vers quelque chose d'autre. Vers quelque chose de séparé. Alors, il me semble que si je regarde le point de vue de la propriété, c'est suffisant. La lumière est propriété. Et vous voyez, de cette manière-là, je n'ai pas besoin de démonstration nouvelle. Si vous allez un peu plus loin, vous allez dire, est-ce que ce que nous disons là va avoir une répercussion sur le point de vue de l'intellect d'agent? Alors je ne traite pas ici, c'est la critique. Mais ce serait intéressant de se demander si l'intellect agent n'est pas dans le monde de l'esprit quelque chose d'analogue à la quintessence.
À la Bible ?
Quoi ?
C'est pas quelque chose d'analogue
à la question. Quoi ?
À la lumière, vous voulez dire ? À la quintessence,
oui,
ou à la lumière ?
La quintessence de la lumière. Puisque la quintessence est. Oui. L'intellect agent est quand même une puissance. Oui. Alors, si l'intellect agent est propriété de l'intellect possible, c'est-à-dire l'intelligence tout court, très bien. Oui. J'ai le point de vue de la lumière, propriété du feu. Parce que la lumière, elle m'est donnée tout de suite. Je la vois. Pas besoin d'induction. Et je la vois liée au feu. Le feu est toujours lumineux. Parce que la lumière demande d'être séparée du feu pour faire appel à un cinquième élément. Non, la lumière n'est pas séparée du feu. Elle provient du feu. Elle n'a pas besoin d'avoir un cinquième élément, une nature d'un caractère différent.
Donc c'est une certaine projection qu'on fait à partir de l'expérience du feu qu'on a sur cette terre. Est-ce que ça s'appelle une projection, une démonstration a posteriori, quand on dit que on pose le feu comme principe de la lumière, de la source de la lumière du monde physique? Parce qu'on n'a pas l'expérience du feu comme principe de la source de la lumière du monde physique.
Je pose, indépendamment de la lumière, je posais les cinq éléments, les quatre éléments. Une fois que j'ai posé ces quatre éléments, je me demande si la lumière n'est pas propriété du feu. Oui, raisonnement que nous avons fait. Je ne suis pas parti de la lumière pour poser un élément. Alors je serai dans votre objection.
Est-ce que c'est ça que les visibles, l'invisible que réalise l'esprit, l'intellect, l'agent, la quintessence comme l'invisible, comme un, oui, dépassement.
Oui, la quintessence est un invisible pour Aristote, c'est sûr. Ce n'est pas l'expérience directe de la quintessence en dehors de la lumière. Pour Aristote. Et c'est là où je me pose la question. C'est pour ça que la question est là. Est-ce que la lumière réclame un cinquième élément, ou est-ce que la lumière tout simplement être propriété du feu? Et je conclus que la lumière est propriété du feu. Oui. Pas besoin de poser un cinquième élément. Et que toutes les raisons que donne Aristote peuvent très bien s'expliquer uniquement par la lumière propriété du feu. Que cette propriété du feu, comme toujours, la propriété, c'est tout ce qui est ultime. Donc, elle est la présence de ce qui est de plus actuel dans le monde physique. Et c'est pour ça qu'elle explique comment, par la lumière, je peux poser l'unité du monde physique. L'unité enveloppante et comme l'horizon.
Parce que pour l'esprit, l'analogue de feu, ça serait un jugement d'existence, un toucher.
L'analogue du feu, c'est ça, c'est exactement, ça brûle. Le jugement d'existence, ça brûle. C'est l'analogue du feu. Et en même temps, c'est l'analogue du toucher. Du toucher de la matière. Parce que c'est fondamental. C'est ultime et fondamental. Ça, c'est sûr. C'est ultime et fondamental. C'est pour ça que si facilement on abandonne ce jugement d'existence pour venir à l'expérience. Parce que c'est ultime. Et si je supprime ce moment-là, c'est comme si je supprimais la lumière dans notre monde physique.
Est-ce qu'on ne pourrait pas rattacher ce que dit Aristote et Diaphane sur ce problème d'actuation de la matière par la lumière? Comme il dit que le diaphane est présent dans tout corps, est-ce qu'il n'a pas senti quelque chose de ça?
C'est ça le plus vieux du reste. Ça rend l'univers plus immanent. Vous voyez ça. Si je mets que la lumière est propriété du feu, je vois que tout l'univers est tenu par cette lumière qui est l'être en acte. L'intellekeia. C'est l'intellekeia de notre monde physique. Vous voyez ? Dans notre monde physique, la réalisation d'être en acte se fait par la lumière. Et donc, c'est la lumière qui est indispensable pour actuer la vision. Vous voyez ? C'est ce que je disais tout à l'heure, le danger de l'ontologisme. C'est-à-dire, ce qui actue mon œil implique un corps, pas du tout. Pas nécessaire, la propriété suffit. La vision sensible à la différence de l'intelligence, la vision sensible ne saisit pas un principe, elle demeure dans des propriétés. Et donc la lumière qui actue la vision n'a pas besoin du tout de reposer sur une connaissance. Ce serait un tirage ontologique, vous voyez, ontologique de Platon. Le feu. Oui, je crois, hein. Réfléchissez bien, parce que c'est important. Mais ça fait dégringoler de la physique d'Aristote quelque chose d'extrêmement important, qui est quand même une forteresse. Incandescence. Donc il faut les trompettes de Jéricho pour faire dégringoler cette forteresse de la quintessence et comprendre que la lumière est propriété du feu. Et je crois que quand je dis que la lumière est propriété du feu, ça me permet de comprendre tout ce que la physique moderne peut dire de la lumière. Ça ne me gêne plus. Mais du tout.
Vous pouvez développer ou pas?
Qu'est-ce qu'il y a?
Vous pouvez développer ça?
Oui, parce que oui, c'est comme les sensibles propres et les sensibles communs. Les sensibles propres et les sensibles communs, on dit toujours, mais aux sensibles propres, la science ne peut pas les saisir, puisqu'elle saisit le mesurable. Or, il y a un mesurable de la lumière. C'est la lumière propriété du feu. Tandis que si la lumière est propriété de la quintessence, il n'y a plus de mesurable. Oui, et c'est très gênant. Parce que ça met une opposition entre la philosophie et la science. Il n'y a pas d'opposition. L'un est disposition et l'autre saisit les principes. Mais il n'y a pas d'opposition. Tandis qu'autrement, il y aurait une opposition. Et quand il y a une opposition, ça pose un problème. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'opposition. Ce sont deux connaissances à deux niveaux différents. Et je crois qu'une des oppositions que la scolastique a maintenue puisque la scolastique a maintenu la quintessence. Alors, à la place d'accepter que le progrès de la science m'oblige de poser un nouveau problème, on s'est maintenu là-dessus. Alors que si je dis ça, ça dégrade, il n'y a plus d'opposition. Analysons.